Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Dimanche 27 novembre, les trois titres ce matin, Stéphane Stéphanie.
La France qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, elle est venue à bout du Danemark, 2-1.
Des écoliers privés de dessert à Agde à cause de l'augmentation des prix et le secteur de l'aérien aura du plomb dans l'aile sur la période des fêtes. Plusieurs syndicats du personnel navigant ont déposé un préavis de grève.
La matinale week-end.
La remontée de balle, Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Dans l'axe, il y a Dembélé. Au deuxième poteau, il y a Giroud. Avec Mbappé, l'accélération, le dédoublement. Théo, le centre en retrait. La frappe de Mbappé.
Voilà l'ambiance hier que vous avez vécue en direct sur RMC avec Jeannot, Jean Rességuier, le premier but de Kylian Mbappé et les Bleus à l'arrivée qualifiés pour les huitièmes de finale.
Une victoire qui s'est jouée dans la dernière demi-heure, 2-1 face au Danemark, en doublé du très précoce Kylian Mbappé. Déjà 7 réalisations en seulement 2 Coupes du Monde. Les hommes de Didier Deschamps se facilitent grandement la tâche. Billet validé pour la suite de la compétition. Arthur Perrault.
Oui, les Bleus peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils sont les premiers à se qualifier pour la phase d'élimination directe. Avec 6 buts en 2 matchs, le sélectionneur Didier Deschamps savoure.
Il y a une disponibilité très importante des joueurs offensifs. Très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs. C'est d'avoir la tranquillité, la sérénité d'être déjà qualifié après 2 matchs. Il y a encore des choses à améliorer.
Plus d'efficacité face au but, de vigilance sur les coups de pied arrêtés. Mais l'état d'esprit ne change pas, le groupe vit bien. La clé pour la suite de l'aventure, selon le défenseur Raphaël Varane.
Il y a des choses perfectibles, on va essayer de les gommer pour aller loin dans la compétition. On est content, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mentalité de compétiteur, de gagneur, on va essayer de faire le maximum pour aller le plus loin possible.
Cela passe avant par un dernier match de poule, mercredi contre la Tunisie. Deschamps déjà prêt à faire souffler son groupe.
Et ça c'est sûr, ouais. Demandez pas qui, comment, beaucoup. C'est l'avantage de l'équipe qui gagne les deux premiers matchs et qui est déjà qualifiée.
Un atout non négligeable pour l'équipe de France dans sa conquête d'une troisième étoile de champion du monde.
Et en parlant d'une troisième étoile, il y a une statistique que les Bleus n'ont pas fini de ressasser. La France ne perd jamais une grande compétition quand elle bat le Danemark en match de poule. Alors, on se donne rendez-vous peut-être le 18 décembre, mais avant cela, on a croisé beaucoup de supporters euros à la sortie du stade.
On a répondu présent sur le terrain, que ce soit Griezmann, n'importe quel autre joueur. On nous a critiqué, ça fait des mois, mais on l'a fait. On est qualifié et on va aller au bout, j'en suis persuadé.
Je pense que la victoire, elle méritait d'être plus large, mais nickel. Franchement, nickel. Franchement, si ça continue comme ça, on peut aller loin.
Super le match, on est super content. On n'a pas fait un aller pour rien. On est vraiment super content.
Pour moi, on va gagner la Coupe du Monde. Comme il y a 4 ans, on va la ramener à la maison.
Des supporters heureux, ça fait du bien. Il y en avait aussi dans l'autre match hier soir. L'Argentine s'impose face au Mexique.
L'Argentine qui a dû s'en remettre au génie de sa star Lionel Messi. Buteur à la 64e, puis passeur décisif. Victoire finale 2-1 face au Mexique. 2-0, pardon, face au Mexique. Les champions sud-américains se donnent un peu d'air au classement. Mais que ce fut laborieux, Florent Germain.
Oui, l'Argentine a souffert, mais Lionel Messi a libéré tout un peuple avec une frappe pied gauche dont il a le secret. Le numéro 10 de l'albicéleste garde tout de même les pieds sur terre et envoie un message aux fans de son pays.
On a perdu le premier match et on avait la sensation qu'on était déjà éliminé. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a gagné ce match qu'on va croire qu'on est les meilleurs du monde. On a une finale qui nous attend contre la Pologne, mais c'est vrai que cette victoire nous soulage et nous libère.
Avec cette victoire, l'Argentine a enfin lancé sa Coupe du Monde. Le milieu de terrain, Rodrigo De Paul.
Cette victoire peut être un déclic. Ce n'est pas facile de jouer avec cette pression et cette obligation de gagner. À cause de 30 minutes difficiles contre l'Arabie Saoudite, certains ont remis en cause plus de 3 ans de victoire et notre victoire en Copa América. J'espère que cette victoire va nous booster et si certains sont descendus du bateau, je leur propose de remonter à bord avec nous.
Pour garder le cap, l'Argentine devra faire le métier mercredi contre la Pologne. Une victoire leur permettrait probablement d'éviter l'équipe de France en huitième de finale.
Alors le deuxième du groupe C, le groupe de l'Argentine, affrontera le premier du groupe D. Est-ce que vous suivez bien le premier du groupe D qui est pour le moment la France? Tout cela reste à affiner bien sûr. Il y a encore un dernier match à jouer. L'Argentine sera opposée à la Pologne mercredi. Dans son groupe, la France rencontrera la Tunisie.
Merci Stéphane Roch. Bien sûr qu'on suit tout bien avec les petites cartes Panini, vous savez, les petites albums.
Vous en avez?
Bah bien sûr. Et maintenant c'est en virtuel. Vous avez vu ça ou pas? On en parlera avec Anthony Morel dans un petit quart d'heure maintenant. Il est 6h04. Les Bleus qualifiés en huitième de la Coupe du Monde, voilà qui met du baume au cœur dans ce contexte économique où tout augmente, Stéphane Genet.
Et on vous en parle souvent sur RMC de cette inflation galopante, un peu plus de 6%, et surtout de ses conséquences. Aucun secteur n'est épargné, dont celui des cantines scolaires. Par exemple, dans plusieurs communes du pays, les repas au réfectoire voient leur quantité diminuer, les formules sont réduites, pas d'entrée ou pas de dessert, ou moins de légumes. En cause, à Agde, notamment dans l'Hérault, le prestataire qui fournit des centaines de repas serait dans l'incapacité de faire face à l'explosion de ses charges à cause de l'inflation, Estelle Henry.
Davina Smart est présidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE d'Agde. Elle a appris la nouvelle il y a une semaine et elle est très en colère.
De payer donc le même prix à la cantine et d'avoir moins, je trouve que c'est pas normal. Surtout que certains enfants, ils ont peut-être que ce repas équilibré par jour.
Même colère du côté des élus qui dénoncent une situation qui s'est dégradée dès le mois de septembre. Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d'Orc, espère que des solutions seront trouvées rapidement.
Le prestataire a enlevé un élément, donc notamment les desserts. On a signé ce marché en 2020, nous sommes engagés jusqu'en 2023. Et pour nous, il est indispensable que nous fassions vite parce que il faut que les élèves puissent être gérés au mieux et ce, le plus rapidement possible.
De son côté, la société chargée de préparer les repas explique ne plus pouvoir faire face à l'augmentation massive de ses charges. Thierry Pompadon, directeur général délégué du groupe SHCB.
Quand on a découvert que notre coût d'électricité allait être multiplié par 10, très sincèrement, on n'était pas prêt. On n'a pas eu trop le choix. On est en état de survie. On n'est pas en état de guerre, mais en état de survie. Donc, il faut réagir excessivement vite.
Selon les élus, une dizaine de communes seraient concernées par une réduction de leurs repas.
Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
Et tout à l'heure, 7h40, le directeur général de ce prestataire, de cette société prestataire, Thierry Pompadon, s'expliquera sur RMC.
Et pour l'heure, on en vient à cette affaire sordide. Un homme et une femme mis en examen hier pour acte de torture et assassinat. Ils ont été arrêtés après la découverte du corps de Marwan, jeune homme de 25 ans, dans une malle en plastique près de Rouen. Il était porté disparu depuis septembre, Guillaume Bier.
Le jeune homme était devenu le souffre-douleur du couple qui l'hébergeait depuis quelques jours à Saint-Germain-les-Arpajons dans l'Essonne. De simples connaissances rencontrées dans le milieu des rêves parties avec lesquelles il partageait une addiction aux drogues de synthèse. Fin septembre, Marwan Swidi est mort chez eux, étranglé après avoir subi de multiples coups. Mais son bourreau ne s'est pas débarrassé du corps. Pendant des semaines, il l'a déplacé dans une malle de cache en cache, y compris en le laissant dans sa voiture quand il travaillait. Ce technicien ascensoriste a fini par le déposer dans la fosse d'ascenseur d'une résidence à Côtebec-en-Caux, près de Rouen, d'après nos informations. C'est là que les policiers de la PJ d'Evry l'ont retrouvé, sur les indications du suspect, arrêté après 2 mois d'investigation minutieuse à l'ancienne, souligne un enquêteur. En garde à vue, le meurtrier présumé, décrit comme froid, manipulateur et pouvant devenir très violent, a prétendu qu'il avait juste voulu se défendre face à la victime.
Récit signé Guillaume Biet, chef du service police-justice de RMC. En bref, 2 enfants de 6 et 9 ans sont morts hier dans l'incendie d'un appartement à Aunay-le-Château. C'est dans l'Aveyron.
Et puis, attention, si vous avez prévu de prendre l'avion pour les vacances de Noël. Préavis et menaces de grève chez Air France et EasyJet.
Les syndicats de personnel navigants réclament des meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. William Bourdon est le délégué syndical SNPNC EasyJet.
Le marché français était celui qui a travaillé le plus dur pendant toute la période Covid, ce qui a permis à l'entreprise de pouvoir traverser cette période sans trop de dégâts. Jusqu'à présent, on a été patient, on a été conciliant, on a essayé de trouver des solutions avec la compagnie pour éviter d'aller au clash. Et puis là, les augmentations qu'ils nous proposent couvrent même pas l'inflation, en fait. On est même pas à 6% d'augmentation. Nos demandes se situaient plutôt aux alentours de 6 à 7%. Aujourd'hui, la grève semble inévitable de notre côté, oui, effectivement.
William Bourdon, délégué syndical EasyJet, pour cet appel à la grève au moment de Noël. Merci Stéphane Genest, à tout à l'heure 6h30. Pas d'inquiétude, jusqu'à 9h, ça y est, l'avion a décollé, la matinale week-end vous accompagne. Avec en hôtesse de l'air et même en copilote, Peggy Broche. Ça va Peggy ce matin?
Ça va parfaitement. Comme nos auditeurs, Mathieu, ils sont déjà là, déjà au rendez-vous sur l'appli Direct Studio d'RMC par exemple. Il y a Émilie qui nous dit bonjour toute l'équipe.
Salut Émilie.
C'est parti pour une journée de boulot, vive le Black Friday. Et oui, parce que j'imagine qu'Émilie travaille en tant que commerçante.
Chez Amazon, je crois.
Ouais, et on en parlait hier, justement, du Black Friday. Et puis, il y a Johan qui dit Japon-Costa Rica. Ça commence à 11h, mes deux fils, 13 et 16 ans, attendaient le match avec impatience. Eh bien, perdus, les deux seront de leur leur chambre à cause du Covid.
Aïe.
Oui, mais il dit, je vais quand même regarder le match entre beau papa et belle maman sur le canapé.
Ah, sympa. Oui,
beau programme.
Oui, alors beau programme peut-être. Je comprends, oui. Que,
ah.
Ouais, à côté des.
Vous êtes sûr de vouloir dire ça à l'antenne,
non.
Mathieu?
Allez, d'accord. Ça, je ne le dirai pas. Johan, bon match parce que c'est vrai que Japon exploit face à l'Allemagne. Donc, face au Costa Rica, faut voir ce que ça donne tout à l'heure, à 11h. Et c'est à vivre évidemment aussi sur RMC, la radio officielle
de la Coupe du Monde
2022. Monique est avec nous. Bonjour Monique.
Bonjour Monique.
Oui, bonjour tout ce qui est, bonjour.
Chamalière, le Puy-de-Dôme, tout va bien là-bas?
Bon, écoutez, ça va pas mal, oui.
Pas trop froid encore?
Oh, les soirs, ça commence à piquer un peu quand même.
Ouais, on est d'accord, hein, mais on est habitué aux hivers un peu rudes et rugueux. Le match d'hier soir, vous avez regardé? L'équipe de France?
Alors?
Les messieurs d'un côté, mais les mesdames de l'autre.
Ah, c'est vrai?
Oui, parce qu'on regarde le même match, mais on ne voit pas la même chose.
Vous ne commentez pas de la même manière, j'imagine.
Exactement.
Donc, vous avez quoi? Vous avez deux télés, deux salons? Comment vous vous organisez?
On va dire qu'on voilà, on a partagé, on ne va pas vous faire le plan de l'appartement, mais c'était un petit peu comme ça, oui.
Et vous vous étiez réunis quand même entre amis.
Oui, puis on a regardé sur BFM, enfin, je ne vais pas faire trop de publicité, mais sur BFM TV à la mi-temps, les critiques. J'étais bien d'accord avec Estelle. Bon.
Avec Estelle Denis, bah, bien sûr, oui, qui effectivement débriefe les matchs sur BFM TV tout au long de ce mondial. Estelle Denis, que vous retrouvez aussi bien sûr sur RMC, Estelle Midi,
entre midi et 15h. Oui, mais je l'écoute entre midi et 2 et tout ça, hein.
Comment vous voyez la suite là pour l'équipe de France? Parce que c'est la question maintenant. Certes, il y a cette stat qui nous rassure, c'est-à-dire que quand on bat le Danemark en phase de poule, on va jusqu'au bout de la compétition et de la meilleure des manières. Mais attention, parce que c'est encore incertain là au Qatar.
C'est peut-être incertain, mais moi j'ai envie de garder une certaine aussi, enfin un certain optimisme, parce qu'on fait du catastrophisme et ceci et cela, et gna 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 gna. Et chaque fois qu'on a un petit peu de bonheur qui arrive, il faut qu'on s'en bat les ficottes les pieds, avec les couleurs des brassards, l'LGBT, tout ça. C'est du sport, point barre.
Et réjouissons-nous.
Et on en profite, et on en profite.
Vous avez raison, Monique, parce que avec tout le reste de l'actualité, on a bien besoin de vibrer et de sourire grâce à nos bleus. Monique!
Oui.
Je vous laisse remettre votre casquette de footix au placard, là. Passez un bon dimanche.
J'ai pas du tout, je regarde que les finales, parce que j'aime beaucoup les hymnes nationaux.
Oui.
Et j'aime beaucoup savoir le nom des gardiens de but et des arbitres.
Lloris, là, hein.
Mais par contre, après, les joueurs vont me brûler un petit peu les pédales.
Oui,
vous ne les connaissez pas tous, mais c'est normal.
Il y en a 25, hein, il y en a 25.
Oui.
D'ailleurs,
oui, il y en a 25, 26, cependant, il y a des blessés, il y a des pas blessés.
Vous aurez l'occasion d'en découvrir de nouveau, je pense, face à la Tunisie. Didier Deschamps va faire tourner, comme on dit. On reparle de tout ça avec vous, bien sûr, au 32-16 tout au long de la matinée. Vous avez regardé le match. Et avec Daniel Riolo, qui était dithyrambique hier soir.
Oui, il y a 8h10, je crois, Daniel Riolo.
Eh ben voilà, Monique.
Voilà,
le boulot est fait.
Tout,
et oui, ben voilà.
Tout.
J'ai plus rien à faire quand vous êtes là. Merci Monique.
On vous embrasse.
Bonne journée à vous.
À bientôt. Bisous. Très bon dimanche. Il est 6h12. Dans un instant,
les trottinettes électriques en libre service interdites aux mineurs.
Dès demain à Paris, il faudra scanner sa carte d'identité pour avoir accès à ces trottinettes. Mesure réclamée par la ville pour limiter le nombre d'accidents. 6000 blessés quand même, hein. Rien que l'an dernier, 22 morts. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'encadrement de ces trottinettes, les bannir complètement de nos villes? On en discute avec vous et le reportage de la rédaction, c'est dans une minute.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
6h14, excellent réveil à l'écoute d'RMC. Allez, un dernier petit tour de trottinette et c'est fini. Dès demain à Paris, les mineurs n'auront plus le droit de monter sur ces engins électriques que l'on compte désormais par milliers, voire dizaines de milliers dans nos villes. Il y en a 15 000 précisément à Paris, où les trottinettes seront aussi équipées de plaques d'immatriculation très bientôt pour permettre à la police de verbaliser les utilisateurs en infraction. Toutes ces mesures de sécurité routière ont été réclamées par la ville pour éviter les 6 000 blessés et les 22 accidents mortels recensés l'an dernier. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin, bannir les trottinettes de nos villes? Est-ce que les interdire aux mineurs, c'est suffisant à vos yeux? 32-16, on va en parler dans un instant avec vous. En tout cas, les mineurs ne semblent pas tous au courant de cette nouvelle interdiction qui entre en vigueur demain. Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin, Kevin Gasser.
Sur son portable, Jalil, 16 ans, cherche à déverrouiller une trottinette
Demain, ce ne sera plus possible.
Je ne le savais pas.
Sur l'application, les clients devront scanner leur carte d'identité pour attester leur majorité.
C'est pas cool. C'est embêtant, quoi.
Elia, jeune parisienne, est une utilisatrice régulière.
Pour aller au lycée, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que prendre le métro parce que, ou même le bus, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, c'est beaucoup plus utile, c'est beaucoup plus rapide.
Mais c'est justement la vitesse, parfois excessive, et les comportements dangereux des jeunes usagers qui dérangent Emmanuel.
Moi, je pense que c'est bien parce qu'effectivement, je vois beaucoup d'excès, surtout chez les mineurs. Et je crois qu'ils ne se rendent pas du tout compte du danger, la vitesse à laquelle vont ces trottinettes électriques. Et moi-même, en tant que vélo, j'ai toujours un peu peur d'en renverser. Et de me faire renverser moi-même.
Pas comme ça, mais c'est...
Sur un boulevard très fréquenté de la capitale, quatre jeunes de 15 ans avancent sur la même trottinette électrique, sans penser aux conséquences.
En fait, on n'y a pas pensé sur le moment. Mais ouais, plus sérieusement, il faut qu'on fasse plus attention. On en est conscient des risques.
Les quatre amis ne sont pas très contrariés par cette interdiction. Ils continueront à traverser Paris en trottinette électrique, explique Hakim, car ils possèdent chacun la leur.
Je vois pas le danger, en vrai.
Pourtant, les accidents sont nombreux.
Cette semaine, j'ai opéré 2 fractures de la main et 2 fractures du poignet, donc en tout 4 patients suite à des chutes à trottinette.
Olivier Hérisson est chirurgien orthopédiste pour un service d'urgence de la main et du membre supérieur qui opère près de 300 accidentés de trottinettes électriques par an, dont un quart sont mineurs. Cette interdiction est donc nécessaire, estime le chirurgien.
Toute cette traumatologie peut facilement être évitée et surtout réorientée d'emblée vers des centres spécialisés comme le nôtre pour éviter d'engorger les services d'urgence publique qui ont peut-être d'autres priorités.
En 2021, selon la sécurité routière, 22 personnes sont mortes après des accidents de trottinettes électriques.
Merci Kevin Gasser et bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes à Limoges, Alain, boulanger là-bas. Vous vous êtes déjà fait peur avec ces trottinettes sur la route, sur les trottoirs?
Oui, enfin, les deux, on va dire.
Ouais.
Moi, travaillant la nuit, quand vous roulez la nuit, que maintenant les villes, la plupart des rues sont éteintes, et que vous avez des trottinettes qui n'ont pas de gilet, pas de casque, parce que pour moi, ça devrait être obligatoire. Les casques, les lunettes, la lumière, faut dire.
Ouais.
Les gants, les gilets fluo, sur une trottinette, ça devrait être obligatoire. Voire même, pour les mineurs, des coudières ou des genouillères, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucune réglementation, hein, pour le moment. Hein. À part entre en vigueur demain à Paris, aucune réglementation.
Alors que sur un vélo, on doit être équipé d'un casque et tout ça, normalement.
Et on doit avoir des lumières aussi.
Vous circulez à vélo, Alain?
Oui, moi, ça fait du cyclo sportif. Hier encore, j'ai fait 70 km.
Ouais.
J'avais mes gants et mes lumières.
Et vous croisez régulièrement des jeunes à trottinette dans les rues de Limoges?
Oui, dans les rues de Limoges, il y en a pas mal qui circulent en trottinette. Et même... pour avoir discuté avec un commerçant, il me dit quand je sors de mon commerce, on est obligé de regarder s'il n'y en a pas un qui arrive.
Ouais.
Parce qu'on se fait bousculer, et pas spécialement les jeunes. Il y a des personnes de la 30, 40, 50 ans.
Ça vous est déjà arrivé, vous?
Moi, personnellement, en pleine nuit, il y en a un qui m'a déboulé devant.
Oui, sans rien respecter, sans regarder.
Sans rien.
C'est ça.
Sans rien.
Alors, côté cycliste, oui Alain.
Moi, je pense qu'ils devraient, on devrait leur faire des stages ou passer le ASRR.
Oui, comme pour le scooter, oui, le BSR, des petites notions de code de la route. Florian est d'accord avec vous d'ailleurs. Bonjour Florian.
Bonjour Florian.
Bonjour.
Chauffeur de bus à Nancy. J'imagine que vous aussi, vous devez en voir.
Oh là là, écoutez, oui.
Racontez-nous.
Pour dire ça, c'est un fléau. Bah, tout simplement, c'est que les mineurs ou même les gens de, comme disait l'auditeur, les gens de 30, 50 ans qui sont sur les trottinettes, qui nous sur les couloirs de bus, qui viennent en sens inverse, donc ils viennent sur nous sur le bus.
Mm-hmm.
C'est dangereux, quoi. Il y a ils n'ont pas d'équipement, pas de lumière à la tombée de la nuit, pas de gilet, pas de casque. Enfin, c'est n'importe quoi.
J'imagine un peu votre angoisse, Florian, parce que déjà, vous êtes responsable de tous les passagers. Vous avez un 40 tonnes sous le volant et c'est vous qui êtes responsable s'il y a le moindre problème. Hein.
Ah bah, s'ils viennent à taper, même s'ils viennent en sens inverse, c'est nous les responsables. Donc, on a une vigilance qu'on n'avait pas avant. On avait fait un stress qu'on n'avait pas, pas avant, quoi, tout simplement.
Donc, pareil qu'Alain, au moins des notions de BSSR, de code de la route. Au moins aussi l'interdiction pour les mineurs, comme le fait Paris. Il faut que ce soit imité dans toutes les autres grandes villes, Florian.
Peut-être pas interdire aux mineurs, mais avoir une bonne formation au code de la route, des notions des codes de la route.
Oui, moi je suis d'accord avec.
C'est la bonne solution à vos yeux, à tous les deux. Continuons d'en parler. 32-16. Vous êtes utilisateur de trottinette. Venez un petit peu témoigner aussi ce matin sur RMC pour avoir tous les points de vue. Est-ce que vous seriez prêt d'ailleurs à passer ce code de la route? Bon, vous me direz, quand on est majeur et quand on a le permis, on l'a déjà passé, mais peut-être repasser une petite formation spécifique. 32-16 ce matin, est-ce que c'est la solution pour mettre fin, je le répète, à ces 6000 blessés et 22 morts recensés l'an dernier? Merci Alain. Merci Florian. Excellent dimanche à l'écoute d'RMC, 6h20.
À suivre dans la matinale week-end.
La France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et une excitation grandissante des Français pour ce mondial.
Vous l'avez remarqué. Hein.
Ah bah oui.
La preuve avec les nouvelles cartes Panini qui sont désormais virtuelles et qui s'échangent sur les réseaux sociaux. On voit ça avec Anthony Morel dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Allez, restez bien avec nous pour aller jusqu'à 6h30 en votre compagnie. Espagne-Allemagne, c'est l'affiche du jour ou plutôt du soir de ce mondial. Les meilleures cotes avec la Dream Team des Paris RMC dans deux minutes. Mais d'abord, cette folie de la Coupe du Monde qui s'empare de la France après notre qualification en huitième.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
Et c'est un plaisir indémodable pour les fans de foot à chaque Coupe du Monde, constituer son album Panini. Vous avez fait le vôtre ?
Bah oui, je l'ai commencé.
Et ces images autocollantes qu'on échange, vous savez, dans les cours de récré et au bureau.
Indémodable, vous dites. Bah écoutez, pas si sûr. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
Vous nous présentez ce matin l'étape d'après, des cartes de foot virtuelles à collectionner et qui peuvent en plus valoir très cher.
Ouais, c'est un peu l'album de foot Panini, mais puissance 10. Et pour le coup, c'est pas vraiment pour les enfants. Ça s'appelle Sorare, S-O-R-A-R-E, c'est français, ça se présente comme une plateforme d'échange de cartes de foot virtuelles. Donc on s'inscrit, on ouvre des paquets, on obtient des cartes de joueurs de dizaines de clubs et d'équipes différents, dont l'équipe de France, hein, qui sont plus ou moins rares. Vous avez les cartes communes, rares, super rares, uniques. Unique, ça veut dire que vous êtes le seul au monde à posséder cette carte virtuelle à un instant T. Comment vous le savez ? Eh bien parce qu'elles sont diffusées sous forme de NFT, vous savez, les fameux titres de propriété virtuelle. Ces cartes, vous les possédez, vous pouvez les collectionner, les échanger, les revendre. Vous avez tout un système d'enchères. Et là, ça rigole pas du tout. Ça peut aller de quelques centimes d'euros pour un joueur pas très coté. Mais il y a une carte d'Erling Haaland qui s'est vendue plus de 600 000 euros. Je rappelle qu'on parle d'objets purement virtuels, de quelques pixels sur un écran.
600 000 euros.
Pour une carte
virtuelle.
Une carte de Cristiano Ronaldo aussi à plus de 300 000. Enfin voilà, il y a eu plein de records comme ça qui ont été battus. On peut aussi miser sur l'avenir, acheter la carte d'un jeune joueur pour presque rien en misant sur le fait que c'est peut-être le prochain Mbappé, ou acheter les cartes d'un joueur blessé qui est décoté en se disant qu'il va performer par la suite. Donc il y a un petit côté spéculation et puis un côté aussi fantasy football. C'est un jeu, donc on peut composer son équipe et en fonction des performances des joueurs dans la vie réelle, eh bien vous allez avoir un classement, remporter des lots, des cartes, etc., etc.
Et ça marche. Succès incroyable.
Succès incroyable. Il compte aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs. La start-up vaut plusieurs milliards d'euros. Et ça s'arrête pas aux cartes de foot d'ailleurs. On est dans une tendance de fond chez les collectionneurs. Ces NFT prennent plein de formes différentes. Dans le sport, on a les NBA Top Shot par exemple, qui sont des courtes vidéos d'action tirées de matchs de basket américain, dont là encore vous pouvez devenir propriétaire. Un clip de quelques secondes de LeBron James s'est vendu autour de 200 000 euros. Et puis il y a certains artistes aussi qui servent de cette technologie pour vendre leurs œuvres. Des groupes de musique par exemple qui sortent leurs albums en NFT en très peu d'exemplaires avec des bonus qui sont destinés aux collectionneurs. Sachant qu'il y a encore une fois toute une vague de spéculation. Les gens se disent peut-être que dans 10 ans, 20 ans, ça vaudra beaucoup plus cher, ou peut-être que ça ne vaudra absolument plus rien. Ça, personne ne le sait.
Mes bonnes vieilles cartes Panini, je les mets à la poubelle, je les oublie.
Ah, mais vous les gardez, surtout si elles sont anciennes. Il y a un côté un petit peu collector. Non, mais surtout, ces albums Panini, ils existent toujours sous forme d'albums physiques, mais aussi en dématérialisé. Vous avez une application qui s'appelle Panini Stickers, qui est à peu près aussi addictive que les images qu'on collait quand on était enfant. C'est le même principe, mais en virtuel. On télécharge l'application, on a un album qui est gratuit, et puis ensuite, on ouvre des paquets de cartes et on va pouvoir les coller virtuellement dans son album. Bah, c'est pas exactement, on perd une petite partie du plaisir quand même, mais ça fonctionne et on peut aussi échanger ses doubles avec d'autres collectionneurs.
Ouais, moi je préfère les cartes Panini.
Les vraies.
Ouais.
Ah bah oui.
Merci beaucoup Anthony Morel. Pas sûr que les cartes Panini de la Mannschaft là soient très cotées en ce moment avec la contre-performance des Allemands, mais ils jouent ce soir d'ailleurs. Les cotes pour ce soir, eh ben on va se tourner vers la Dream Team des Paris RMC, coach Courbis, Jean-Christophe Drouet. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu, bon dimanche à tous. Salut Mathieu et salut à tous.
L'affiche du jour de cette magnifique journée de dimanche en Coupe du Monde, c'est dans le groupe E que ça se passe. Espagne-Allemagne, coup d'envoi à partir de 20h. Évidemment, vous n'allez rien manquer sur RMC. Les Espagnols, vous le savez, ont corrigé le Costa Rica 7-0. Les Allemands ont sombré face au Japon, défaite 2-1. Voici les cotes très équilibrées. 2,35 la victoire de l'Espagne, 3,70 le match nul, 2,85 la victoire de l'Allemagne. Coach, pas facile, on joue quoi?
Ben disons que d'abord je rentrerai pas dans les détails de qui va gagner, qui va pas gagner et tout. Je vois un match très intéressant, cette équipe espagnole qui joue bien, les Allemands obligés de gagner, donc ils sont obligés de marquer, et je pense qu'ils vont marquer, donc je vois bien les deux équipes qui marquent avec Morata ou Torres buteur.
Deux buteurs espagnols, donc les deux équipes qui marquent, tu ne te prononces pas sur le résultat, les deux équipes qui marquent, Morata ou Torres, ça c'est à 2,20. Ton pari de folie maintenant?
Le pari de folie, je préciserai le 1 partout ou le 2 partout, avec toujours Morata ou Torres buteur.
Ok, tu restes sur tes espagnols, pas de buteur allemand, Morata ou Torres, et deux scores multichance, 1 partout, 2 partout, ça c'est à 7,25. Merci beaucoup mon coach.
Merci à vous et j'espère que on va bien encaisser.
Oui, ça c'est vrai. Et magnifique match ce soir, Espagne-Allemagne.
20h sur RMC, à suivre, la radio officielle de la Coupe du Monde. Si vous voulez parier sur les hippodromes, c'est ici qu'il faut aller.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
Avec la Dream Team là aussi, Dimitri Blanc-L'Œil. Bonjour. Bonjour Dimitri.
Bonjour à tous. Ah, nous sommes à Toulouse ce matin, c'est rare.
Eh oui, on change d'hippodrome, souvent c'est Vincennes, Auteuil, Deauville, vous avez l'habitude de ces hippodromes-là, mais là je vous emmène dans le sud.
Et pourquoi Toulouse?
Écoutez, il y a une épreuve qui est la 17e étape du défi du galop, qui se dispute ce jour-là sur l'hippodrome de Toulouse.
La ville rose avec vous ce matin, la Dream Team des courses RMC, votre dernier bruit?
Écoutez, là on est sur un peloton de 17 partants, c'est pas comme Vincennes hier avec 14 partants, c'est un peu plus relevé, et c'est un handicap. Alors on part sur le numéro 16, Olympie, une jument qui reste sur des courses intéressantes, surtout dans des catégories qui sont à peu près les mêmes catégories, enfin la même catégorie que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc écoutez, moi j'en fais une base incontournable dans cette épreuve.
Numéro 16, si elle ne part pas, Olympie.
Alors Olympie, on peut lui substituer sa candidature avec le 6 Up Ellie, qui a été remarquable lors de sa dernière sortie, qui était sur l'hippodrome de Toulouse. C'est toujours intéressant d'avoir des aptitudes sur un parcours, parce que des hippodromes en France, vous savez qu'il y en a beaucoup.
C'est vrai, il y en a énormément. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer chaque week-end. La Dream Team des courses RMC, les pronostics sur rmc.fr. Dans quelques minutes, le retour de l'info. Remettez le masque, c'est l'appel de l'infectiologue Benjamin Davido à la une de 6h30. 6h30, à la une de l'info, Stéphanie Geneste. Stéphanie, oh, elle est belle celle-là.
Alors c'est une annonce.
Elle s'est mariée, c'est une révélation.
Wow. Et bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Mathieu Wow.
Les trois grandis.
L'épidémie de Covid reprend, en conséquence, certaines voix réclament le retour obligatoire du port du masque. Et le Père Noël sera sûrement moins généreux cette année, la faute à l'inflation, avec un budget revu à la baisse.
France 2, Danemark 1, les Bleus se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
D'abord, on s'interroge ce matin sur RMC. Faut-il réinstaurer le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun?
Et si on se pose cette question, c'est parce que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse. Plus 31% par rapport à la semaine dernière. 49 000 nouveaux cas enregistrés vendredi. Et aussi parce que certains professionnels réclament le retour du masque, comme par exemple le patron de la Fédération Hospitalière de France. C'est une bonne idée également pour Benjamin Davido, médecin infectiologue.
Il faudrait essayer d'aller vers une incitation forte au port du masque en intérieur. Aujourd'hui, je crois qu'il faut de la pédagogie, expliquer qu'il y a une situation très particulière avec la bronchiolite, il y a une menace d'une forte reprise épidémique de la grippe et qu'on arrive sur un début de 9e vague du Covid et que dans le vivre avec, eh bien, c'est se protéger les uns les autres dans des périodes où ces maladies circulent et où en intérieur, les virus ont tendance à nous contaminer.
Alors faut-il remettre le masque? Peut-être l'avez-vous déjà fait. 32-16 ce matin, vos témoignages, vos réactions, on en parle tout à l'heure. À vous de nous dire à 7h10. Pour l'heure, l'actualité ce matin, c'est aussi ce préavis de grève dans le secteur aérien pour les vacances de Noël.
Les syndicats de personnel navigant réclament une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail. EasyJet et Air France sont concernés par ce mouvement social, Rémi Inc.
Deux syndicats d'Air France appellent à la grève en pleine période de fête pour dénoncer les conditions de travail des hôtesses et des stewards. Mais la direction affirme qu'une nouvelle négociation doit se poursuivre au-delà de janvier 2023 et ces deux syndicats sont minoritaires. A priori donc, la grève a peu de chances d'aboutir. En revanche, du côté d'EasyJet, les deux syndicats qui vont déposer un préavis de grève sont majoritaires et les revendications portent principalement sur les salaires. Mot d'ordre plus engageant quand on sait que ces salaires ont été gelés pendant toute la période Covid. La direction propose aujourd'hui une augmentation de 5%. Les syndicats demandent entre 6 et 7% pour couvrir l'inflation. Cette grève a donc de grandes chances d'aboutir et des perturbations sont à prévoir pour les avions EasyJet. Les syndicats conseillent d'ailleurs aux passagers de d'ores et déjà s'organiser.
Rémi Inc. En bref, cette macabre découverte dans la banlieue de Rouen, le corps de Marwan, disparu depuis 2 mois maintenant, a été retrouvé. 2 personnes ont été mises en examen dans l'enquête autour de cette mort. Et un homme en garde à vue ce matin après l'enlèvement d'un bébé par ses parents. La fillette de 6 mois confiée à l'aide sociale à l'enfance était en soins à l'hôpital de Saint-Étienne. L'homme mis en garde à vue donc aurait pu aider les parents à l'enlever. Le bébé n'a toujours pas été retrouvé.
RMC, il est 6h33.
J-28 avant Noël. Stéphane Jeunesse nous fait le décompte chaque jour. Vous avez peut-être prévu d'acheter vos cadeaux aujourd'hui et à mesure que les prix augmentent, la hotte du Père Noël est de moins en moins remplie.
Preuve en est, Mathieu, le budget moyen pour les cadeaux cette année est de 386€. C'était 408 l'année dernière. Anna Huo est justement allée vérifier si vous allez, vous aussi, réduire vos dépenses de Noël. Reportage.
De tout petits cadeaux, voilà comment Saïda décrit les paquets qu'elle déposera au pied du sapin cette année.
Avant, moi, j'ai mis toujours un petit peu de sous à côté pour les cadeaux. Mais maintenant, non, on ne peut pas. Tout, il passe pour le loyer, pour les factures.
Pour Céline aussi, c'est un Noël sous le signe des économies.
Cette année, on va faire des cadeaux aux enfants, mais pas entre adultes.
Moins de cadeaux et à plus petit prix.
J'ai un petit peu profité du Black Friday, alors que je ne l'avais jamais fait auparavant.
Le budget, on va dire 50€ pour les petits, et pour mes filles, c'est au moins 100€.
D'habitude, c'est un peu plus.
Déjà, pour mes filles, c'est au moins 250, voire 300€.
Et sans surprise, les ménages qui réduiront le plus les dépenses de Noël sont ceux déjà touchés par l'inflation, explique François Croze, directeur du pôle politique à l'IFOP, à l'origine de l'enquête.
C'est surtout, au fait, les foyers aux revenus les plus modestes, et notamment chômeurs, personnes isolées, bref, particulièrement ceux qui sont affectés par les hausses des prix de l'énergie ou des carburants.
Et selon cette étude, le budget moyen des cadeaux de Noël devrait baisser de 20€ par rapport à l'an dernier.
18% des Français qui disent cette année pas de cadeaux pour les proches à Noël. Peut-être que c'est votre cas parce que inflation, parce que moins de pouvoir d'achat. On en discute avec vous, bien sûr. 32-16, 6h34.
RMC, le journal des sports.
Oh, bah les sports.
À Griezmann. Griezmann qui va centrer fort devant le but. Mbappé !
Oui !
Et le doublé !
Oui !
De Mbappé !
C'est Jeannot Rességui au commentaire hier soir pour ce doublé de Kylian Mbappé, Stéphanie Rock. L'événement de la soirée, c'est bien sûr la victoire de la France sur le Danemark de 2-1.
Une victoire qui envoie les Bleus directement en huitième de finale du Mondial. Victoire de 2-1, un doublé signé Kylian Mbappé, vous l'avez entendu, à 23 ans seulement. L'attaquant continue d'affoler les statistiques. Il a déjà marqué plus de buts en bleu qu'un certain Jean-Pierre Papin pour l'ensemble de sa carrière. Nicolas Pelletier analyse le phénomène.
Sourire sur les lèvres, trophée d'homme du match en main à toute vitesse devant les caméras. Kylian Mbappé n'avait pas de temps à perdre hier soir au moment de rejoindre le bus des Bleus. Face au Danemark, l'attaquant français a porté l'équipe de France et ça n'étonne plus Didier Deschamps, le sélectionneur.
C'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Et après le match hier, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni présentait plutôt Kylian Mbappé comme le finisseur du travail collectif français.
Forcément, c'est plus facile. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et comme vous pouvez le voir, quand on récupère, on essaie de le chercher directement parce qu'on sait qu'il peut faire la différence.
Clinique avec 31 buts en 61 sélections à seulement 23 ans. Mbappé continue d'affoler les statistiques. Hier soir, il a rejoint un certain Zinedine Zidane au 7e rang des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.
Stratosphérique, Kylian Mbappé. Et la France qui valide son billet pour les 8e de finale reste à connaître l'adversaire. Mais l'objectif de Didier Deschamps reste d'assurer la première place du groupe.
Forte probabilité d'être premier vu notre goal average par rapport à celui de l'Australie, ce qui permettra évidemment de gérer sur le troisième match. Un bravo aux joueurs face à une très belle équipe du Danemark ce soir. Avec un peu plus de réussite, on aurait pu se mettre à l'abri. Il y a du répondant, il y a de la qualité bien évidemment, mais on a eu beaucoup de solidité et un état d'esprit qui est excellent.
Et l'état d'esprit, il était également dans les tribunes, état d'esprit à la fête pour les quelques 5000 supporters français qui avaient fait le déplacement. Parmi eux, s'était glissé notre envoyé spécial, Martin Bourdin.
Sur le parvis du stade 974, les chants français ont résonné de longues minutes après le match.
Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.
On n'a plus de voix, on a tout donné.
Plus de voix, mais énormément de confiance.
Vous pouvez ramener qui vous voulez, les Argentins, les Brésiliens, les Espagnols, ramenez-les nous. On va chercher la troisième étoile. La troisième étoile, elle est là.
Personne n'y croyait, ils se sont dit... La malédiction des champions, je sais pas quoi. Nous, on va la briser, la malédiction. On va briser les deux à noix, la malédiction, la Coupe du Monde, tout.
Et même si certains ont souffert hier soir...
À la première mi-temps, on n'y a pas cru au début.
Il y a eu un petit stress, mais c'est bon, c'est passé.
Être la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale, ça donne envie à pas mal de Français d'aller chambrer les supporters des autres équipes.
Premièrement, les Belges. Et pas les Argentins.
Parce que les Argentins, faut dire la vérité, c'est les premiers... À chambrer tout le monde.
Mais promis, cette confiance n'est pas de l'arrogance.
Derrière, ça reste un peu fébrile par moment, donc faudra faire attention contre certaines équipes.
Il faut bien se préparer pour les prochains matchs, parce que les prochains matchs, c'est un peu difficile.
Et de l'avis de tous, le meilleur moyen de préparer ce huitième de finale, c'est évidemment de gagner contre la Tunisie mercredi.
De l'ambiance, oui, de l'ambiance. Il y en a eu aussi après le match entre l'Argentine et le Mexique hier soir, grâce une nouvelle fois à un certain Lionel Messi.
Buteur puis passeur, la Pulga, comme on le surnomme, a libéré son équipe. Victoire 2-0 face au Mexique. L'Argentine se relance dans la compétition après une entame laborieuse contre l'Arabie Saoudite. Lionel Messi sait que son équipe revient de loin.
Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, on avait l'impression qu'on était éliminé. Donc c'est pas parce qu'on a gagné que maintenant on est les meilleurs du monde. Il faut atteindre notre objectif de terminer premier du groupe, c'est ce qu'on cherchait. Après c'est vrai qu'on a vécu des jours difficiles, beaucoup de tensions, les nerfs à vif. Mais maintenant c'est un autre mondial qui commence, on est plus tranquille.
Au programme du jour, dans le groupe D, Japon-Costa Rica à 11h et Espagne-Allemagne ce soir à 20h. Dans le groupe F, la Belgique va jouer le Maroc à 14h et le Canada affrontera la Croatie, vice-champion du monde à 17h. Tous ces matchs seront bien sûr à vivre en intégralité sur RMC.
La radio officielle de cette Coupe du Monde 2022. Et si vous avez regardé le match d'hier, si vous souhaitez y revenir, nous apporter votre analyse, nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Daniel Riolo qui dit que c'est le meilleur match des Bleus depuis 2006 contre le Brésil, 32-16, Daniel Riolo qui sera avec nous tout à l'heure à 8h10. Pour le moment, 6h38, excellent réveil. Nous sommes dimanche et vous êtes déjà nombreux à nous envoyer vos bonjours.
Jamel nous dit bonjour l'équipe.
Salut Jamel.
Bonjour à tous les auditeurs. Et il nous dit désolé pour mon retard, je me suis réveillé à la bourre, mais il n'y a pas de souci Jamel.
À 6h30 du matin, franchement. Dimanche, est-ce qu'on peut dire qu'on est en retard?
On est avec vous en plus jusqu'à 9h. Un grand coucou, nous dit Raphaël. Alors comme promis, je vous écoute parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter tout le monde cette semaine. Du coup, je me lève juste pour vous le week-end. Ah. Vous êtes super, ne changez rien. Merci beaucoup
plaisir, Raphaël.
Raphaël, on vous embrasse.
C'est ça qui est pratique le week-end. Vous n'avez pas eu votre dose d'RMC la semaine? Eh bien, il y a le week-end pour vous rattraper, comme Raphaël. Jean-Philippe est aussi avec nous. Ah tiens, ça va vous faire plaisir, Peggy. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mathieu, comment ça va?
Bah, ça va très bien. Vous, je sens que ça va encore mieux que nous, parce que vous vous apprêtez à partir pour une destination qui est...
La Martinique.
Oh, ah, chez moi. Pardon. Bon, c'est un cri du cœur.
Peggy vient de nous en parler en disant ça fait 3 ans que je n'y suis pas allé, je n'en peux plus, il faut que j'y aille.
Là moi c'est pareil, déjà que bon j'essaie d'y aller tous les ans hein, mais là j'ai besoin d'aller respirer et puis départ à midi 20, arrivé 16h, ben ce midi là.
Non.
Ah oui, là j'ai un peu préparé.
Vous m'emmenez dans votre valise?
Ah ben il me reste encore de la place, j'ai le droit à 2 valises donc.
Ah ouais, oh le bonheur.
Une.
Oh, et vous partez combien de temps?
Je pars 15 jours en repérage pour mon départ définitif au mois de fin janvier.
Ah carrément, Jean-Philippe, oui. Vous allez vous installer là-bas?
Oui, je vais m'installer là-bas. J'ai ma compagne qui est là-bas déjà depuis 4 mois et elle a été mutée. Puis moi, je vais la rejoindre. Je quitte la RATP et puis je vais changer de vie.
Oh, ok. Alors. Démission à la RATP. Encore un agent RATP de moins, Jean-Philippe.
C'est ça. Même deux, parce que hier encore, on se serrait dans les bras avec un collègue conducteur de métro qui partait. Ça y est. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour et puis on ne va pas se revoir et il démissionne. Il part dans le sud.
Et pour quelle raison, Jean-Philippe? Parce que c'est vrai que...
Ben, raison de ne serait-ce que la vétusté de l'équipement, que ce soit des bus, des métros, le manque de personnel qui est énorme, la difficulté de recrutement. Même s'ils disent qu'ils recrutent beaucoup et que ça va mieux, faut pas oublier qu'il faudra refaire le sondage dans 6 mois ou 1 an. On va voir si les agents qui ont été recrutés sont toujours sur place. Parce que la circulation est devenue extrêmement difficile pour les machinistes. Moi, je travaille au métro, donc j'ai pas ce problème. mais même pour aller la difficulté de circuler dans Paris, en région parisienne, c'est devenu l'enfer.
Tout ça vous a dégoûté un peu de ce métier ?
Non. Le palmé, c'est vraiment les conditions qui sont difficiles. Le métier ne m'a pas dégoûté. Mais
les conditions à la RATP sont difficiles.
Ouais. Les conditions sont devenues exécrables.
Ça sera l'un des gros dossiers et des gros chantiers sur le bureau de Jean Castex, qui prend ses fonctions demain.
Il a du boulot, hein.
À la RATP. Oh que oui, il a du boulot, Jean Castex. Merci Jean-Philippe.
Eh ben, au plaisir. Je vous fais plein de bisous à tous. Ça
vous saluez la Martinique pour moi, hein.
Ah, j'y manquerai pas, avec plaisir.
Bon voyage, puis, Jean-Philippe, et vous savez que vous pouvez nous écouter là-bas, hein.
Mais bien sûr, j'ai l'application qui est branchée en permanence et le podcast.
Eh ben, génial. Eh ben, alors, à bientôt. Et bon vol. Voilà.
Merci beaucoup. Allez, bisous à tous. Et puis, bon courage à tous ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est un dimanche. Donc,
on pense à eux, à travers vous. Salut Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. 6h42. Dans un instant.
Je vous laisse, Mathieu. Je vais avec Jean-Philippe.
Oui, d'accord. Okay. Bah, nous, on va parler de nos immeubles.
Eh oui, l'état inquiétant des immeubles.
Vous savez qu'il y a eu Lille, ces effondrements. À Lille, deux immeubles effondrés, un mort sous les décombres. L'état très inquiétant de tous les immeubles en France. À Bordeaux, à Marseille, en région parisienne, chaque fissure est désormais scrutée. Quel est l'état exact du parc immobilier français ? Enquête RMC dans une minute.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
6h43, bon réveil sur RMC. Trois nouvelles évacuations d'immeubles à Lille ces toutes dernières heures. L'effondrement meurtrier, c'était il y a 15 jours en plein centre-ville. Aujourd'hui, la moindre fissure est prise très au sérieux, et ce, partout en France.
L'enquête RMC.
Bonjour Martin Cadoret.
Bonjour Mathieu.
Savoir et comprendre avec la rédaction d'RMC le samedi et le dimanche, et avec vous ce matin Martin, quel est l'état de nos immeubles en France ? Quel risque pour les habitants ? Comment agir ? Surtout, ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude est vive dans de nombreuses villes.
Oui, exemple à Brie-sur-Marne, en région parisienne, 70 personnes évacuées il y a une semaine, le maire Charles Aslangul.
Des fissures étaient apparues. Il y en a une et qui part du sous-sol au dernier étage, c'est-à-dire est dans un mur porteur alors que c'est du béton armé. Des bruits de craquement étaient entendus par les locataires. Donc on a envoyé un expert en fin de journée. Il y avait un danger de péril imminent. J'avais évidemment en tête ce qui s'était passé à Lille quelques jours plus tôt. Et donc j'ai préféré d'évacuer en plein milieu de la nuit des familles et donc de générer une angoisse plutôt que d'apprendre plus tard un drame.
Le maire qui va demander à tous les bailleurs sociaux de la ville de vérifier les immeubles de la commune.
Oui, c'est la moindre des choses. Il y a la question des immeubles insalubres et donc à risque.
Et insalubre et donc à risque, oui, c'est la faute des propriétaires ou des bailleurs qui ne veulent pas engager des travaux. À Marseille, dans l'affaire de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, le bailleur social Marseille Habitat est mis en examen. Autre exemple, à Saint-Denis, la lutte contre les marchands de sommeil qui a été érigée en priorité par la mairie, qui estime qu'un cinquième du parc privé est insalubre. Situation tendue aussi dans le département du Nord, 70 000 logements insalubres, chiffre donné avant-hier par la préfecture, et à Paris, 148 immeubles en péril recensés l'année dernière. Un chiffre en baisse, la mairie l'explique par sa politique de fermeté envers les propriétaires. Elle fait les travaux elle-même, puis elle envoie la facture aux bailleurs.
Quelles sont les causes de toutes ces fissures, Martin ?
Alors, c'est variable selon les villes. À Bordeaux, par exemple, trois immeubles s'étaient écroulés en juin 2021. À plusieurs jours d'intervalle et sans faire de victimes, depuis, des dizaines d'immeubles ont été évacués dans la ville à divers endroits. En fait, Bordeaux est construite sur des sols marécageux, des affluents de la Garonne, ce qui pourrait expliquer l'instabilité de certains bâtiments. La ville a lancé une vaste étude sur le sujet. Alors, les conclusions ne sont pas encore connues. Mais ce qui est sûr, c'est que l'instabilité des sols est un facteur de risque, surtout avec le changement climatique. Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes.
On a toutes les questions de retrait et de gonflement d'argile qui viennent après les canicules et qui vont aussi nous arriver. En fait, on s'est souvent dit, bah voilà, on peut construire n'importe où, on sait le faire techniquement. Aujourd'hui, on réaménage en prenant conscience qu'on a des sols, qu'on a des sous-sols, que ceci aussi bouge. Et c'est vrai que les questions de réchauffement climatique nous le rappellent.
Alors le réchauffement climatique, mais pas que, les politiques d'urbanisme jouent aussi un rôle, Christine Lecomte.
Il y a eu un urbanisme pendant des années qui a favorisé l'étalement urbain et la désertification progressive des centres-villes. Et aujourd'hui, en fait, nos villes moyennes peuvent avoir un bâti plus vétuste, effectivement, parce que moins entretenu, parce que parfois vacant.
Et quelques chiffres, hein, à Paris, on compte 117 000 logements vacants, à Marseille, 36 000, à Nantes et à Bordeaux, on est autour de 10 000 logements vacants.
On a salué à Lille l'héroïsme de cet étudiant qui a vu les fissures en rentrant de soirée et qui a tout de suite prévenu. Qu'est-ce que je dois faire si je constate le même genre de fissure dans mon immeuble ?
Alors, évidemment, si la fissure est grave comme à Lille, vous appelez les secours, ça va de soi. Sinon, si la fissure fait plus de 2 mm de large, vous alertez le syndic qui pourra faire intervenir un expert. Et en cas de forte inquiétude, vous pouvez vous rendre en mairie. C'est ce qui s'est passé à Bry-sur-Marne. La mairie qui peut prendre un arrêté de péril imminent après un avis d'expert. Et une petite particularité, à Paris, on peut faire appel directement aux architectes de sécurité. C'est un corps unique en France qui dépend de la préfecture de police.
Merci beaucoup Martin Cadoret pour cette enquête complète à retrouver sur rmc.fr. 6h47. Direction la Corrèze où nous attend Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au boulot ce matin ?
Au boulot.
Vous faites comme quoi ?
Vous.
Qu'est-ce que vous faites, Philippe ?
Infirmier libéral.
Ah oui, donc on se lève tôt, y compris le dimanche, pour la tournée.
Exactement.
Même si on a regardé le match. Bon, vous me direz, c'était à 17h, donc ça va encore, hier.
Oh. Ouais, bah, je l'ai regardé en intermittence entre deux patients.
Ah oui.
Ou chez les patients, parce que je bossais hier.
Vous étiez dans la tournée du soir.
Voilà, exactement. Donc et avec RMC du coup.
Eh ben voilà. Bien sûr, évidemment, les commentaires de Jeannot Rességuier.
Exactement.
Déjà mythique pour ce deuxième match, le doublé de Mbappé. Est-ce que finalement cette équipe de France, ça y est, vous a rassuré? Il y avait le forfait de Benzema, toutes ces blessures. Est-ce que là, on peut se dire que c'est bon, le mondial est bien engagé pour nous?
Ouais, ben là, on l'a plutôt bien commencé. Alors bien sûr rassuré, parce qu'avec toutes les blessures entre Karim Benzema, Pogba, etc., Kanté, on y allait quand même avec un effectif alors qui est quand même
on y allait, mais on savait pas trop où on allait, quoi, Philippe, c'est vrai.
Ouais, alors bon, moi j'étais pas franchement hyper inquiet non plus, parce que bon, quand on regarde l'effectif, alors même si les jeunes inexpérimentés sur ce genre de compétition, on a quand même un paquet de joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Enfin, le milieu de terrain, on a beaucoup parlé du milieu de terrain, et pourtant, bon, Tchouaméni, oui. Real de Madrid, Rabiot, Juventus de Turin.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal. On n'a pas à rougir, voilà. Ça c'est sûr et certain, Philippe. Si on... Vous voyez l'équipe de France aller jusqu'où?
Ah bah jusqu'au bout. Hein.
Ouais.
Ouais, après ça reste une Coupe du Monde, hein, donc on peut s'arrêter en huitième. Bon, après si on prend l'Argentine en huitième, voilà, ça va être très compliqué aussi, hein. Mais on a, franchement, je pense qu'on a l'effectif pour aller au bout. Hein, on a pas loin d'avoir la meilleure attaque du monde. Hein, faut pas se leurrer non plus. Et puis après on n'est pas ridicule derrière et en milieu. Hein.
Bon, bah parfait, c'est noté. Philippe, nous sommes le 27 novembre. Déjà dimanche dernier, je prenais les notes.
Oui, je vois que Mathieu est sur sa feuille.
Exactement,
bah,
j'ai toujours ma
notes.
Petite feuille. Effectivement, donc Philippe, le 27 novembre, nous dit nous allons jusqu'au bout. Donc finale.
On ramène la coupe à la
gagne
maison.
La finale.
Ouais,
la troisième étoile sur le maillot.
Noter.
Eh bah, c'est noté, Philippe. Et puis on se rappelle d'ici le 18 décembre.
Avec plaisir.
Allez,
ouais.
Salut,
bonne journée, Philippe.
Merci. Bonne
journée.
Et vous embrassez vos patients de notre part. Il est 7h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Le retour des pulls moches de Noël cette saison. Comment ne plus perdre ses chaussettes dans la machine à laver? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Et puis le secret pour une amitié qui dure. Tout ça dans vos histoires du week-end, dans quelques secondes.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, dans 20 minutes, remettez le masque. C'est l'appel de l'infectiologue Benjamin Davido ce matin sur RMC. 49 000 nouveaux cas en 24 heures. La barre du millier de patients en soins intensifs de nouveau franchie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ces chiffres. Ils sont de nouveau là. Est-ce qu'il faut remettre le masque en France, dans les endroits clos? Peut-être que vous le faites déjà. Peut-être que vous préparez à le faire. 32-16 pour vos réactions, vos témoignages. On en discute dans À vous de nous dire, 7h10. Mais d'abord, aux histoires du week-end.
Les histoires du week-end.
Pays Broche, Margot Bourdin, Stéphanie Rock ouvrent la presse pour vous chaque samedi, chaque dimanche. Elles dénichent ce qu'elles trouvent rigolo, ce qui les énerve aussi un petit peu. Ça va?
Oui, ça va bien et vous?
Formidable. La solution, ça va aller encore mieux après avoir écouté Pays Broche, parce que c'est un truc qui m'existe. Perdre ses chaussettes dans la machine. Vous en mettez deux, vous n'en retrouvez qu'une.
Ça vous est tous arrivé?
Oui.
Surtout vous, Mathieu.
Insupportable.
Ben voilà, les filles, Stéphanie, Margot.
Moi c'est l'histoire de ma vie.
Ah ben voilà. Bon, ben désormais, ça ne vous arrivera plus parce que Olivier Robert a trouvé la solution. Ça s'est passé lors d'une conversation autour d'une grande tablée en vacances. C'est vrai que quand on ne parle pas météo, on parle lessive et chaussettes perdues, hein, quand on ne sait plus quoi dire. Et ben, en attendant, Olivier Robert a creusé l'idée et il l'a trouvé. Il a rédigé un brevet qu'il a déposé à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.
Oui.
Et l'INPI,
c'est très sérieux tout ça.
C'est très sérieux. L'INPI l'a validé, écoutez bien, comme invention française 2020.
Mm-hmm.
Et là, vous allez me dire, bon, bah, expliquez-nous le principe.
Bah oui,
c'est quoi la solution?
Allez.
C'est un système, en fait, et un système d'attache par simple magnétisme qui permet de lier les chaussettes entre elles. Quand on les met à sécher, on peut les mettre à cheval. Plus besoin d'une pince à linge. Vous voyez un peu le principe?
Okay.
Donc, du coup, en fait, quand vous les mettez dans la machine, vous les collez l'une à l'autre et elles ne se détachent pas. Donc, vous les retrouvez par deux. C'est fait sécher par deux. Et en plus, elles ne s'abîment pas. Et elles seront fabriquées, parce que ce sont des chaussettes spéciales, hein, qui seront fabriquées en France, en Seine-et-Marne. Et la dernière étape, bah, c'est la levée de fonds sur la plateforme Ulule. Alors, si vous voulez soutenir le projet, il s'appelle Emento et ce sera disponible fin 2023.
Alors, j'adore cette histoire. On va participer à cette cagnotte parce que voilà. Je veux absolument qu'elle sorte et surtout les faire porter à Peggy Broche, parce que c'est bien beau de les faire sécher par deux et de les coller dans la machine, mais une fois qu'elles sont chacune sur un pied, je pense que tu marches et tu t'allais chuter.
Mais non, enfin Mathieu, c'est pas aimanté à ce point.
Ah bon,
quand même.
D'accord. Eh bien, j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est une bonne idée,
ouais.
Une bonne solution.
On pourrait s'aimanter aussi dans la matinale week-end pour se séparer.
Oula.
Non, bah, ça va aller, Margot, merci.
Justement, Stéphanie Rock, expliquez-nous la recette d'une amitié qui dure pour rester aimantée tout au long de la vie.
Oh, c'est beau, hein?
Ah oui.
Alors, la semaine dernière, Margot nous expliquait les trucs et astuces pour entretenir la flamme avec son conjoint ou sa conjointe. Moi, ce matin, je vous livre les secrets d'une amitié qui dure.
C'est quoi pour vous une amitié forte? Voilà.
C'est quoi pour vous une amitié qui dure depuis le plus longtemps possible? Depuis le lycée, je crois
que c'est une amitié où tu peux ne pas avoir de contact pendant des mois, peut-être même des années.
Ah oui, on rappelle comme si c'était comme la veille.
Et c'est reparti et il y a rien à changer.
Vous êtes mignon.
Bah.
Mais il faut qu'il y ait un ciment à la base, il faut qu'il y ait quelque chose.
Oui.
Alors bon, selon une étude publiée dans la revue Science Advance, il semblerait que nous partagions de forts sentiments d'amitié avec des personnes qui nous ressemblent. Vous allez me dire, jusque-là, on n'apprend pas grand-chose. Mais quand je parle de ressemblance, je parle d'odeur corporelle.
Mmh.
Oui, c'est très sérieux. Mmh. Nous serions amis avec des gens qui dégagent la même odeur que nous.
Ah.
Alors, commencez pas à vous sentir les uns les autres, je vous vois venir.
Oui.
On va pas commencer à se renifler. Quand on rencontre quelqu'un, nous ne sommes pas des animaux. Mais nous aurions un sens développé de l'odorat inconscient qui nous permettrait instinctivement de reconnaître des molécules d'odeur semblables. Ce serait un peu chimique, comme le coup de foudre, en fait. Mais sauf que là, on parle de coup de foudre amical, c'est un petit peu la même chose.
D'où l'expression, celui-là, je ne peux pas le sentir.
Exactement.
Ah, c'est génial.
Exactement. Bien résumé. En fait, c'est chimique.
Ce qui est sûr aussi, Margot Bourdin, c'est que nous sommes bien à l'approche de Noël. J-28, nous disait Stéphane Jeunesse tout à l'heure.
Oui, et car c'est demain le grand retour, je sais que vous l'attendez, du pull moche de Lidl. Il revient dès demain dans les rayons de l'enseigne et sur son site de vente en ligne. Alors, si vous portez des pulls moches de Noël tous les jours comme Peggy, Mathieu, Stéphanie, vous pourrez donc l'acheter ce lundi. Mais inflation oblige, il coûte 2 euros de plus que l'année dernière, 11,99 €. En revanche, petite nouveauté cette année, vous pouvez opter pour 4 autres modèles, tous plus kitsch les uns que les autres, avec des Pères Noël, des rennes dessus et même des effets LED pour illuminer le réveillon et impressionner vos convives. L'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ce pull moche avait eu un énorme succès. Tous les stocks étaient partis en espace de 2 heures. Certains pulls revendus jusqu'à 80 € en ligne. Et puisqu'on parle de pull moche de Noël, je voulais terminer en musique, puisqu'on a trouvé la pire chorale de Noël qui reprend le traditionnel chant avec des instruments de musique insolites. Écoutez plutôt.
C'est que
vous connaissez. Vous êtes affreux. Vous allez casser le mythe de Noël.
C'est pas moi.
En 3 secondes.
Cette chorale.
Oui, parce que c'est avec leurs aisselles qu'ils produisent ces délicieux sons.
Ouais.
Cette reprise est disponible sur tous les sites de streaming, puisqu'il s'agit d'une opération caritative. Objectif, récolter des fonds pour sauver les océans du plastique.
Et bah, ils doivent être grandement amis hein, s'ils font tout ça.
Ils font des doobie-chou, du coup, avec leurs aisselles aussi, après les doobie-chou de Sofia. Le Père Noël est une ordure. Bon, bref.
Non mais chacun ses références.
Ah mais oui,
on ne peut pas la battre sur les références de Noël.
Et si on achetait des pulls moches pour la semaine prochaine?
Ah non mais on va même faire mieux que ça, on va organiser un concours parce que la journée du pull moche c'est mi-décembre, je crois que ça tombe un vendredi, donc vous pouvez être certain que le samedi et le dimanche,
allez,
on est prendra nos meilleurs pulls moches sur le compte Facebook Les Matins RMC. Allez, dans deux minutes, le retour de l'info et de la météo.
RMC, la matinale week-end.